VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Il est 11h en temps universel. Bonjour à tous. En Libye, des experts avertissent que le rejet par les deux autorités rivales d'un troisième gouvernement soutenu par l'ONU aggrave une situation déjà tendue. Depuis la chute de Muammar Kadhafi en 2011, la Libye est déchirée par les violences entre factions armées, une instabilité dont profite le groupe État islamique pour étendre son influence. Les djihadistes sont installés dans la ville côtière de Sirte pour y former des combattants. Les pays voisins du Maghreb, comme la Tunisie et l'Algérie, redoutent d'être déstabilisés à leur tour. La coalition de l'opposition à Djibouti, USN, l'Union pour le Salut National, a mis en garde contre les risques d'une révolte populaire à la veille de l'élection présidentielle, dans laquelle le président Ismaël Omar Guelleh est candidat pour un quatrième mandat. M. Oumed Gaba a réitéré les accusations de l'opposition contre les forces de sécurité, responsables selon elle du massacre de 27 civils le 21 décembre dernier lors d'une cérémonie traditionnelle. Le gouvernement avait lui évoqué 7 tués et des blessés, tant chez les civils que les policiers. Amnesty International appelle les autorités tchadiennes à libérer immédiatement et sans condition deux activistes des droits humains arrêtés cette semaine alors qu'ils préparaient une manifestation pacifique. Les précisions, Michel Joseph.
Mahamat Nour Ibedou, porte-parole de Ça suffit, une plateforme d'organisation de la société civile, et Nadjo Kaina Palmer, coordinateur du mouvement IINA, on est fatigué, en arabe tchadien, ont été arrêtés dans les locaux de la police judiciaire de N'Djamena. Ils sont accusés de troubles à l'ordre public et de résistance à l'action des autorités. Selon Amnesty International, les deux activistes avaient été convoqués par le procureur de la République en rapport avec l'organisation de deux marches pacifiques prévues les 22 et 29 mars contre la candidature du président Idriss Déby Itno qui briguera son cinquième mandat le 10 avril. Le 19 mars, le ministre tchadien de l'Intérieur, Ahmad Mahamat Bachir, avait annoncé l'interdiction de toute manifestation sortant du cadre électoral. Mahamat Nour Ibedou et Nadjo Kaina Palmer n'ont été arrêtés que pour avoir exercé leur droit légitime à la liberté d'expression, d'association et de réunion. Ils doivent être libérés immédiatement et sans condition, a déclaré Samira Daoud, directrice adjointe pour l'Afrique de l'Ouest et centrale à Amnesty International.
Le Togo est à mi-parcours pour être éligible au programme américain du Millennium Challenge à Kaunte. Les pays sont éligibles sur la base de nombreux critères, dont le marché libre, la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. Pour le cas de Lomé, il y a eu beaucoup de réformes, mais encore du chemin à faire. Idriss Fall a reçu dans les studios de VOA Afrique David Gilmore, ambassadeur américain au Togo.
Oui, c'est une bonne nouvelle pour le pays. Nommé éligible en décembre 2015 pour le programme Seuil, première étape de Millennium Challenge. C'est une indication du processus de réforme.
Donc, il y a des progrès politiques.
Quoi. Certainement, oui. Et peut-être, vous savez, pour le Millennium Challenge, il y a 20 indicateurs. Le Togo a déjà passé 10 sur 20 indicateurs. Il reste du travail à faire pour améliorer la situation avec la corruption et aussi pour élargir l'espace démocratique.
Et l'espace démocratique, c'est un gros problème parce qu'au Togo, depuis que le Togo existe, tout le temps, dans des élections, il y a des personnes qui sont tuées, sauf la dernière élection.
Oui, les dernières élections étaient libres et justes et transparentes selon la communauté internationale. L'éligibilité du Togo pour le programme Soy de Millennium Challenge, c'est une reconnaissance de ce processus de réforme dans le pays.
Et qu'en est-il des élections locales, alors?
On m'a dit qu'on va voir les élections locales pendant peut-être les prochains 2 ans. Il y a un processus maintenant pour les élections locales, mais certainement, ça, c'est les Togolais qui vont décider. Mais depuis mon arrivée au Togo, certainement il y a une volonté à tous les niveaux d'avoir les élections locales.
Mais qu'en est-il de la corruption? Parce que le Togo est un pays très pauvre, il n'y a que du phosphate.
Oui, la corruption, c'est quelque chose qui existe dans tous les pays, mais il y a des efforts certainement au Togo pour améliorer la transparence et contrôler la corruption. Mais le conseil d'administration du Millennium Challenge a mentionné, quand ils ont annoncé l'éligibilité du Togo pour le programme, qu'il faut mettre un accent sur le contrôle de corruption.
Et les droits de l'homme et la liberté de la presse, alors?
Ça s'améliore, certainement. Avec la presse, il y a beaucoup d'expressions, il y a beaucoup de journaux, beaucoup de radios privées, télévisions privées.
Et on les arrête moins, quoi.
C'est ce que j'entends, oui, que la situation s'améliore, mais certainement, il faut demander aux journalistes.
On a vu que récemment, ils ont fait même des manœuvres antiterroristes. Est-ce que les États-Unis participent là-bas à aider les autorités à faire face à d'éventuelles attaques terroristes.
Le Togo, c'est un partenaire très important pour les États-Unis dans la sous-région et en Afrique en général, parce que le Togo participe dans les missions de maintien de paix au Mali, par exemple, et au Darfour, d'autres endroits. Donc le Togo, c'est un partenaire qui travaille côte à côte avec les États-Unis pour assurer la sécurité de l'Afrique, et ça, c'est très important. Et nous, les États-Unis, on compte sur le Togo et d'autres pays comme partenaires très forts.
David Gilmour, l'ambassadeur américain au Togo. Un officier de l'armée du Burundi, issu de l'ancienne armée dominée par la minorité Tutsi, a été assassiné hier soir à Bujumbura. L'officier d'état-major, le major Didier Mouipundu, a été abattu alors qu'il était dans un bar du centre-ville de Bujumbura, selon des témoins.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le président Barack Obama a rencontré hier des opposants cubains à l'ambassade des États-Unis à La Havane. Il a salué leur courage. John Lyndon.
Tous les individus autour de cette table ont fait preuve d'un courage extraordinaire, a-t-il déclaré au début de cette rencontre, intervenue au dernier jour de sa visite historique sur l'île. C'est un sujet autour duquel nous continuons d'avoir de nombreuses divergences avec le gouvernement cubain, a-t-il ajouté. Une douzaine de dissidents étaient présents, parmi lesquels Elizardo Sanchez de la Commission cubaine des droits de l'homme et réconciliation nationale. Il y a des personnes ici qui ont été détenues, certaines par le passé, d'autres très récemment, a commenté Barack Obama. Lundi, le président cubain Raúl Castro a vivement réagi aux questions de journalistes sur les prisonniers politiques, mettant au défi l'un d'entre eux de lui fournir une liste pour qu'il puisse les libérer.
L'un des suspects de l'attentat perpétré à l'aéroport international de Bruxelles, Najim Lachraoui, a été arrêté ce matin à Anderlecht, une commune populaire de la capitale belge. D'après la radio-télévision RTL, il s'agit de Najim Lachraoui qui était en fuite depuis sa participation aux attentats. Écrit RTL sur son site, il pourrait être l'artificier ou l'un des artificiers des attentats de Paris le 13 novembre, selon les médias. Interrogé, la police a renvoyé au parquet fédéral. Par ailleurs, la police belge a identifié les auteurs présumés du double attentat suicide qui a fait donc une dizaine de morts mardi à l'aéroport de Zaventem. Il s'agit de deux frères résidents à Bruxelles, Khalid Ibrahim El Bakraoui, connu des services de police pour un grand banditisme, mais non pour des faits de terrorisme. Cela dit, la Belgique est toujours sous le coup du choc. Un deuil national de 3 jours a été décrété. Les attentats ont fait plus d'une trentaine de morts et 200 blessés. Ils ont été revendiqués par l'État islamique 4 jours après l'arrestation des auteurs présumés de l'un des auteurs présumés des attentats de Paris, Salah Abdel Salam. Retour sur ces événements tragiques avec Laurent Monté. Il est expert en criminologie.
Les attaques de Bruxelles s'inscrivent dans une stratégie désormais continue, organisée par le Front islamique depuis au moins 5 à 7 ans et s'installe désormais en Europe, dans la partie occidentale, après le 13 novembre à Paris. Désormais, nous aurons donc le 22 mars avec une stratégie très claire qui est de répondre avec réactivité aux arrestations, aux perquisitions contre les terroristes ou présumés terroristes.
Est-ce qu'il y a un rapport entre les attaques de Paris et celles qu'on vient de vivre à Bruxelles?
Oui, il existe une connexion évidente liée donc d'abord au fait que le principal suspect arrêté il y a 48 heures des attentats de Paris qui était en cavale vient d'être quelque part honoré par des attentats mettant en évidence qu'on donne des représailles à l'arrestation de cet homme. Et puis, vous avez exactement la même signature comportementale, des attaques coordonnées contre des places symboliques dans des lieux et des états symboliques, avec le souci, j'insiste bien, de donner de la réactivité à l'arrestation d'Abdel Salam.
Laurent Monté, expert en criminologie, joint à Paris par John Lydon. Les primaires américaines, Donald Trump et Hillary Clinton, restaient mercredi en tête de la course aux primaires de leur parti malgré les succès de leurs rivaux dans plusieurs États de l'Ouest américain. Le milliardaire new-yorkais a nettement remporté la primaire de l'Arizona, mais le sénateur du Texas, Ted Cruz, l'a écrasé dans l'Utah avec 70% des voix selon des résultats partiels, renforçant son avance. Chez les démocrates, Bernie Sanders a, comme prévu, largement battu Hillary Clinton. dans l'Utah et l'Idaho, la secrétaire d'État s'imposant, elle, dans l'État le plus riche en délégués de l'Arizona avec environ 60% des voix. Jean-Roger Billon, le prochain journal, c'est dans 50 minutes avec Henri Francisque. À bientôt.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.